Bonsoir, c'est toujours l'été sur France Culture et nous nous penchons ce soir dans le temps du débat sur cette supposée guerre des générations qui se joue sur fond de crise sanitaire. Reprise de l'épidémie, faut-il blâmer la jeunesse ? Depuis le 11 mai dernier, aux abords du bois de Vincennes, c'est chaque week-end la même scène. À l'heure où la nuit tombe, des grappes de jeunes affluent en métro, à vélo, forment des files dans la pénombre et s'enfoncent ainsi, plus ou moins discrets, dans les allées sombres du bois. Dans la nuit, cet immense parc de l'Est parisien prend des allures de forêt. On s'y perdrait vite, d'ailleurs, mais les promeneurs du soir savent très exactement où se diriger. Les coordonnées GPS ont circulé, de bouche à oreille, et de toute façon, après quelques minutes de marche, il suffit de suivre le son profond des basses et les éclats de lumière qui filtrent entre les arbres. Tous les week-ends, donc, depuis le déconfinement, une certaine jeunesse parisienne se donne rendez-vous au bois de Vincennes pour danser jusqu'au petit matin dans des free parties, des fêtes organisées illégalement. Si les boîtes de nuit restent fermées et les grands rassemblements festifs interdits, cet été, Paris est une fête, malgré tout. Et la fête SM bien au-delà de la capitale. On se souvient de cette immense rave party qui s'est tenue dans les Cévennes à Hurlaparade sans interruption du samedi 8 au mercredi 12 août. Un événement qui a été très suivi par les médias qui ont été prompts ces dernières semaines à fustiger l'irresponsabilité de cette jeunesse qui danse en temps de crise sanitaire. Covid-19, le péril jeune, se demandait même en une le journal Le Parisien aujourd'hui en France le 16 août dernier. Pendant ce temps, les bilans épidémiologiques tombent et montrent effectivement une reprise épidémique importante, particulièrement marquée chez les moins de 30 ans. Est-ce à dire que les jeunes sont responsables de la reprise de l'épidémie ? La jeunesse est-elle devenue une sorte de bouc émissaire dans cette crise sanitaire ? La Covid-19, en frappant inégalement les classes d'âge, n'aurait-elle une forme de fracture intergénérationnelle ? Pour répondre à ces questions, nous recevons ce soir Pascal Crépet. Bonsoir. Bonsoir Pascal Crépet, vous m'entendez ?
Bonsoir, oui, je vous entends.
Vous êtes enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistique à l'École des hautes études en santé publique. Également avec nous Serge Guérin, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement et à l'intergénération, co-auteur du livre « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» paru en 2017 aux éditions Kalman-Lévy. Un autre sociologue est avec nous ce soir qui étudie plutôt les politiques de santé, c'est Henri Bergeron. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous publierez au mois d'octobre aux presses de Sciences Po un ouvrage collectif intitulé « Covid-19, une crise organisationnelle ». Et puis pour finir, un quatrième invité avec moi en studio, Nathanaël Travier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 26 ans, vous êtes bibliothécaire et vous êtes à l'origine d'une tribune publiée le 15 août dernier dans Le Parisien intitulée « Non, la jeunesse n'est pas irresponsable ».
Une marée de jeunes fêtards s'agglutinent devant la scène, sans aucun geste barrière.
Si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal, tant pis. Mais moi, en l'occurrence, pour ma personne, en tout cas, j'ai pas de soucis à ces mots-là.
Il n'y a pas une crainte de deuxième vague ou de participer à l'arrivée d'une deuxième vague ?
Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que si ça devait se faire, ça serait fait depuis longtemps.
C'est tous des gros égoïstes, des hypocrites, parce que derrière, nous, on va dire, ah bah tiens, tu portes pas ton masque dans la rue, mais voilà, on va danser, on va embrasser des étrangers, etc. On va le diffuser, ce mauvais corona.
On a des lieux qui font plusieurs milliers de mètres carrés, et ce qui fait qu'en fait, ça laisse le choix aux gens qui viennent que s'ils veulent, ils peuvent respecter les distanciations sociales. Ça veut dire ils gardent leur masque, ils dansent loin des gens, et ceux qui veulent pas, en fait, eh ben, ils respectent pas. Et après, c'est eux, leur responsabilité à eux, de faire attention à pas les contaminer.
Un petit aperçu à l'instant du traitement qui a été fait par les médias de cette vague de free party, de fêtes illégales que la France connaît cet été. Ici, c'était un reportage du journal télévisé de France 3, daté du 9 août. Alors, quelques chiffres quand même, pour finir cette introduction, sur la reprise de l'épidémie chez les jeunes. Chiffres tirés du dernier point épidémiologique publié par Santé publique France, qui concerne la santé du 3 au 9 août. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 personnes, personnes a atteint 44,7 chez les 20-29 ans. C'est beaucoup plus que le taux d'incidence tous âges confondus qui est de 17,3. Et c'est à peine moins que le seuil d'alerte qui est fixé à 50 cas pour 100 000 personnes. Alors Pascal Crépé, épidémiologiste, est-ce qu'on a établi un lien de cause à effet entre le supposé relâchement de la jeunesse pointé dans le reportage qu'on vient d'écouter et la reprise de l'épidémie?
Ah, vaste question. Eh bien, en fait, non, parce que c'est très difficile d'établir ce genre de lien de causalité. Et effectivement, si on observe une augmentation de l'incidence dans les populations jeunes, alors faudra qu'on discute de la définition de population jeune, mais si on regarde l'ensemble des chiffres, on voit qu'en fait, l'augmentation, elle est dans toutes les tranches d'âge. Et donc, si on a peut-être 46% d'augmentation chez les 15-44 ans, on a quand même entre 41 et 43% chez les plus de 65 ans. Donc, l'augmentation, elle est quand même générale. Et donc, relier cette augmentation à des comportements précisément, c'est quelque chose qui est assez compliqué.
Alors, vous avez parlé vous-même de la question de la définition de cette jeunesse. Qui sont ces jeunes dont on parle d'un point de vue épidémiologique ?
Alors, c'est pas vraiment une notion épidémiologique, hein, jeune. Ça, c'est vraiment, on travaille sur des tranches d'âge. Donc, c'est pas forcément à moi de définir ce qu'est un jeune. Dans les données qu'on observe, qui sont rapportées par Santé publique France, par exemple, la grosse tranche d'âge, c'est les 15-44 ans. Après, on peut la subdiviser, bien sûr. Mais ce qu'il faut rappeler derrière ça, c'est que si on se focalise, par exemple, chez les 20-30 ans, les 20-30 ans, c'est 7 millions de personnes en France. Donc 7 millions de personnes rapportées à 67 millions d'habitants, c'est au final une petite tranche d'âge.
Alors Henri Bergeron, sociologue, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme relâchement ? Comment expliquez-vous les comportements peut-être moins responsables qui ont été observés chez les plus jeunes cet été ? Henri Bergeron ? Alors je crois qu'on ne vous reçoit pas assez. Ah oui, ça y est, je vous entends.
Est-ce que allez-y. Vous m'entendez ? Malheureusement,
le son est trop mauvais. On va essayer de vous rejoindre. En attendant, Nathanaël Travier, alors comment est née l'idée de cette tribune que j'évoquais dans la présentation, intitulée « Non, la jeunesse n'est pas irresponsable » qui est parue dans Le Parisien?
C'est une réaction qu'on a eue en fin de semaine dernière. On était confrontés, comme tout un chacun, à un discours médiatique qui était de plus en plus sur la responsabilité des jeunes. Et à un moment donné, il y a eu la volonté de dire, non, à un moment donné, il faut faire passer une autre voix jeune. Déjà, cette catégorie des jeunes, tous azimuts, qui seraient des irresponsables, nous pose un problème. D'une part, parce que c'est cette catégorie qui est trop large et qui ne représente pas une diversité, en réalité, de ce qu'est la jeunesse. Quand on voit la jeunesse, et on le voit, par exemple, quand on voit les images ou justement dans les reportages des journaux télévisés, on voit les jeunes qui sont en rêve party, qui sont à hurler la parade. C'est une toute petite partie de la jeunesse. Personnellement, j'étais dans les Cévennes au moment où s'est passée cette rêve party et je n'y étais pas. Donc, il y a une grande partie de la jeunesse qui n'est pas irresponsable et qui a été responsable et qui suit les règles. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine injustice à parler aujourd'hui de péril jeune. Quand il y a 3 mois, on applaudissait les soignants et on oublie qu'en fait, dans les soignants, il y a une large partie de jeunes gens de moins de 30 ans. Dans les services d'urgence, ils sont très nombreux. Dans les services, ils sont très nombreux. Et finalement, on trouvait qu'il y a quelque chose d'injuste, finalement, d'accuser aujourd'hui les jeunes, alors que les jeunes ont été en première ligne, seront en première ligne aussi demain et continuent à se battre, font corps avec la société.
Alors, on se souvient de cette expression « OK boomer » qui a beaucoup tourné il y a quelques mois et qui symbolisait une sorte de rupture entre deux générations, pour schématiser d'un côté les baby boomers qui auraient vécu une très belle vie et de l'autre les millennials qui, eux, héritent d'une planète et d'une société en assez mauvais état. On a un peu l'impression de revivre le même débat en de nouveaux termes dans le contexte de pandémie, lorsqu'on a pu lire dans différents médias qu'on avait choisi, en confinant, de sacrifier la jeunesse pour sauver les vieux. Serge Guérin, vous qui étudiez le vieillissement, les relations entre les générations, est-ce que la pandémie a révélé un manque de solidarité intergénérationnelle en France ?
Non, je crois qu'elle a révélé le besoin de certains, ou pour exister médiatiquement, ou pour faire des ventes, de réinventer toujours cette histoire de guerre des générations. En fait, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien dans ce pays, c'est plutôt justement des solidarités intergénérationnelles, des alliances intergénérationnelles. Tout à l'heure, votre invité disait il y a eu beaucoup de jeunes dans les soignants, par exemple. Il a parfaitement raison. Mais il y a eu aussi des gens plus âgés. Il y a même eu des gens à la retraite qui sont revenus travailler, et certains d'ailleurs en sont morts. Et donc, c'est juste pour montrer qu'il y a plein de micro-phénomènes de solidarité intergénérationnelle ou simplement de solidarité, conviviale, normale, de proximité. Et beaucoup de gens se posent pas du tout la question de l'âge. Ils viennent aider parce que ils ont envie d'aider, parce qu'ils sentent la nécessité d'aider, et quel que soit finalement leur âge. Et c'est vrai qu'on a vu à ce moment-là un peu se reconstruire un discours. Alors, quelques personnes en mal de publicité, généralement d'ailleurs assez âgées, et qui avaient bien profité du système, expliquant que oui, les vieux ont trop profité du système, et c'est vraiment pas bien maintenant, à cause d'eux, les jeunes vont perdre leur emploi, en oubliant, parce qu'ils le savent pas, qu'il y a aussi beaucoup de seniors qui sont en train de perdre leur emploi et qui ont fort peu de chances de le retrouver. Voilà. Et de vouloir opposer les choses. Et alors, pareil, quand on dit la jeunesse, il est très bien le texte du Parisien, mais la jeunesse, ça veut strictement rien dire. Comme la vieillesse. Il y a plein de manières d'être jeune. Il y a plein de manières d'être dans les Cévennes. J'étais à la même période. Il y a plein de manières de vivre son âge. Il y a plein de manières de vivre sa citoyenneté. Et quelques-uns ont eu besoin de revivre, de faire la fête et tout ça. Bon, ok. Mais globalement, la question, je crois, est pas tellement là, et pas tellement de vouloir réinventer un affrontement comme ça entre les générations. Puis vous voyez bien, même en termes d'âge, là j'entendais juste avant un autre intervenant, bon, les jeunes, vous alliez jusqu'à 44 ans. Alors c'est super d'être jeune jusqu'à 44 ans, c'est intéressant.
Dans les points épidémiologiques de Santé publique France, pardon, oui. ce sont effectivement les catégories d'âge qui sont utilisées.
Voilà, ce qui prouve bien d'ailleurs que c'est très social, et finalement ça représente pas grand-chose. Et d'ailleurs c'est marrant, pour le fun, hein, je rappelle qu'on est senior dans l'entreprise dès 45 ans. Donc, vous voyez, donc vous êtes jeune jusqu'à 44, et à partir de 45 vous êtes trop vieux, quoi. Donc on voit bien aussi l'inanité de ces segmentations. Finalement il y a plein de manières de vivre sa vie, et il y a plein de manières ou pas de se sentir aussi, je dirais, dans un collectif. Et puis c'est vrai qu'il y a une tendance quand même à un petit peu à faire la morale, quoi. Ah, c'est pas bien. Alors, les vieux, c'est ah là là, après 65 ans ou après 70 ans, c'est pas bien, vous devez pas sortir. Hein, c'était un petit peu la polémique avant le déconfinement, en disant bah les vieux, ils doivent pas sortir, et en les infantilisant complètement. Et puis là, on est un petit peu dans la même chose. Avec certains jeunes, on va aussi les infantiliser complètement, en disant ah, c'est pas bien ce que vous faites, et ainsi de suite. Donc, je crois qu'il faut sortir un peu de ces... Enfin, je crois qu'on doit sortir de ce type de logique.
Alors, on vient de retrouver Henri Bergeron, qui est, je le rappelle, sociologue, qui travaille sur les politiques de santé. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette propension que pointait Serge Guérin de la société à faire la morale aux plus jeunes générations dans le cadre de cette pandémie? Henri Bergeron, on a entendu un mot de votre part, mais je crois que vous êtes déjà...
Oui, alors bon, je voudrais dire que je suis tout à fait en accord avec ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous m'entendez ?
On vous entend. Allô ? C'est décalé, mais on vous entend. Continuez.
Vous m'entendez ? Bon, je suis désolé. Oui, ce que je voulais dire, c'est que je suis complètement d'accord. En sociologie, je pense que le concept de jeunesse est assez peu opératoire. Pas assez discriminant, pas assez spécifique, et comme il a été dit, c'est une catégorie beaucoup trop large pour qu'on puisse en tirer une quelconque conclusion intéressante sur le rapport à la protection et à la prévention. Après, c'est un phénomène assez ancien, c'est assez classique. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les politiques de santé publique à destination des usagers de drogue, et dès les années 70, après mai 68, on a blâmé les jeunes qui, après avoir fait vaciller l'État et l'ordre républicain, allait provoquer une épidémie de consommation de drogue dans lequel le citoyen allait se dissoudre. Et en fait, quand on regardait les chiffres, c'était un nombre assez limité de personnes. On parlait à ce moment-là de la jeunesse dans la rue. Là encore, toutes les personnes qui ont travaillé sur mai 68 savent bien qu'il s'agit de catégories de jeunes particuliers venant de certains milieux, se situant dans certaines villes. Donc je pense que c'est
comment dire, c'est pas quelque chose de très neuf. Il y a dans l'idée d'une révolte de la jeunesse une façon facile, j'ai envie de dire, de faire politique. Je pense que ça peut être aussi un argument instrumentalisable dans le cadre d'un combat sur l'échiquier politique. Mais c'est vrai que d'un point de vue analytique pour les sociologues, et je l'ai cru comprendre aussi pour les épidémiologistes, c'est pas très opératoire.
Alors, le mot péril jeune a été prononcé deux fois déjà depuis le début de cette émission. Et à ce propos, je voudrais vous faire entendre la pensée du sociologue Laurent Bonelli sur ce concept de péril jeune.
Il y a une réactivation permanente du péril jeune. Si vous prenez des références aussi anciennes que Socrate ou ce genre de choses, vous avez toute une série, vous voyez, de choses sur la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus que c'était. Bon, la jeunesse aujourd'hui ne sera pas capable de maintenir notre culture, les gens sont mal élevés. Et vous trouvez ça sur des poteries babyloniennes à 2000 avant Jésus-Christ. Oui, c'est fou. Donc vous voyez, il y a quand même une sorte, j'ai envie de dire, de longue histoire sur cette question-là. Le péril jeune est très largement une construction. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il existe, bien entendu, des comportements déviants, liés à la transgression de l'adolescence. En revanche, on ne peut pas dissocier ces comportements des toiles de sens dans lesquelles ils sont pris.
Laurent Bonelli, donc, sociologue, invité de l'émission Sur les Docs sur France Culture, c'était en 2015. Nathanaël Travier, vous adhérez à ce que vous venez d'entendre, notamment dans la tribune que vous avez signée dans Le Parisien, vous pointez la propension de la société française à blâmer ces jeunes.
Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit sur les questions des solidarités. C'est des choses qu'on a pointées aussi. Je crois qu'effectivement, dans la société française, ces solidarités intergénérationnelles, elles existent, elles sont très fortes, elles ont été très fortes pendant le confinement et elles le seront encore. Par contre, je suis moins d'accord sur le sous-estimement de la réalité de ce phénomène. À la fois, quand je vois le moment où on a écrit cette tribune et de rendre compte que les gens à qui on a envoyé la tribune et qu'on leur a proposé de signer, on a eu énormément de messages de soutien très rapides de gens qui étaient d'accord pour sentir qu'il y a ce sentiment d'une certaine frustration de la jeunesse où d'un coup on a fait les choses exactement comme il faut les faire, que ce soit pendant le Covid ou même dans le monde du travail, on fait les choses comme on nous demande de les faire, et puis on est toujours les jeunes qui sont feignants, les jeunes qui sont irresponsables, les jeunes qui quittent leur travail trop facilement. Et je pense qu'il y a une certaine lassitude de la jeunesse vis-à-vis de cette situation qui est peut-être simplement un discours médiatique et peut-être pas une réalité sociologique, mais qui est un discours médiatique. Et de l'autre côté, c'est aussi le nombre de réactions et de critiques qu'on a eu ces 3-4 derniers jours. Quand vous lisez les commentaires sous Le Parisien, il y a des choses qui sont absolument odieuses, de gens qui vont dire « mais vous nous devez tout, qu'est-ce que vous venez demander des choses ?» et des choses qui sont extrêmement agressives. On s'est fait insulter copieusement sur nos murs Facebook. Donc je pense que même s'il n'y a sans doute pas de réalité sociologique, ça je suis tout à fait d'accord. Par contre, je pense qu'il y a une réalité médiatique et il y a des gens qui sont sensibles à ce discours-là. Quand on parle de la jeunesse, nous on a essayé de dire simplement « mais regardez, la jeunesse, il n'y a pas que ça. Il y a des gens très sérieux, il y a des gens qui font les choses bien. » Par exemple, sur BFM TV, Louis Poinsignon est intervenu, il a signé la tribune avec nous, il est intervenu, à côté de lui, il y avait des images de jeunes en train de faire la fête. Et les gens sont très sensibles à ce discours-là. Après, on a des messages, mais regardez, vous voyez bien que vous dites n'importe quoi, les jeunes, ils sont en train de s'amuser. Et donc, je pense qu'il y a une réalité sociologique, il y a un contexte sociétal qui est aussi à désamorcer. Il y a quelque chose d'assez malsain dans le rapport qu'on a à la jeunesse en France. C'est pour ça qu'on a cité Régis Debray et le Bel Âge qu'il a publié en 2013, qui dit aussi ça. Société fascinée par la jeunesse, qui prend toutes ses valeurs à la jeunesse, la beauté, c'est la jeunesse, et qui en même temps donne une place extrêmement difficile à ces jeunes. Et les intègre difficilement.
Serge Guérin, vous rejoignez l'analyse de Nathanaël Travier ?
Oui et non, c'est-à-dire que, à la fois, en effet, on est dans une société, il faut le dire, hein, idéologiquement, qui survalorise la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'elle aime les jeunes, c'est totalement différent, mais elle survalorise les valeurs associées à la jeunesse, les valeurs de modernité, les valeurs de progrès, les valeurs de nouvelle consommation. Il y a tout un discours. L'investissement, c'est sur la jeunesse. Vous vous souvenez de quelqu'un qui s'appelle d'ailleurs toujours François Hollande, qui s'était présenté comme le président de la jeunesse. Il ne s'est pas présenté comme le président de la vieillesse. Vous voyez, c'est-à-dire que le message, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Comme si les autres, c'était pas l'avenir. Et à quel moment on s'arrête la jeunesse? On revient toujours à cette discussion-là. Donc d'un côté, on survalorise des valeurs qui seraient attachées à la jeunesse, qui sont un peu naturalisées les choses, mais on est quand même dans une société très communautariste, où en fin de compte, on limite les gens à une identité. Le siècle des Lumières, c'était on a des identités multiples. Je suis plusieurs choses à la fois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui estiment qu'ils sont une seule chose, leur couleur de peau, leur religion, et pourquoi pas leur âge. Et donc, on est beaucoup là-dedans, ce qui est malheureux, ce qui est triste, qui compromet complètement le parcours républicain. N'empêche que, et du coup, en restant là-dessus, ben on oppose quoi les choses. Et donc il y a d'un côté en effet une survalorisation de la jeunesse comme idéologie qui serait celle de la modernité, le nouveau monde. Hein. Après tout, on a un président de la République qui a beaucoup porté un discours là-dessus. Moi, ma première valeur, c'est que je suis plus jeune que les autres. Bon, est-ce que ça suffit? Ça se discute. Et puis de l'autre côté, les vieux qui seraient ou des vieux complètement ringards, et certains qui ont pris la parole dans Le Parisien, ainsi de suite, ou bien des gens qui n'auraient juste que de l'expérience. Hein, on est un petit peu dans ces éléments-là. Et finalement, on oppose, alors que, là encore, y a plein de jeunes qui apportent des choses aux plus âgés, et qui inversement, d'ailleurs, prennent des choses des plus âgés pour eux. Quoi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans la réalité de la société, dans de l'alliance, dans de la réciprocité, peut-être comme jamais d'ailleurs. Qui n'a pas entendu un grand-père dire oh, « bah, c'est ma petite-fille de 8 ans qui m'a réparé mon téléphone en 5 minutes ». Et en le disant, le grand-père, il est fasciné, il est très admiratif de sa petite-fille. Il dit pas « je suis passé pour un idiot ». Il est très très heureux de ça. Mais en revanche, la petite-fille qui est très contente d'avoir aidé son grand-père va l'écouter sur un autre sujet. C'est-à-dire que je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de réciprocité, mais que en effet, dans le circuit médiatique et dans le circuit des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est pas la société, c'est la partie, je dirais, avec un gueulophone, avec un mégaphone de la société, vous voyez, et qui, en fin de compte, on l'entend, on la voit parce que elle est hyper présente. Et ceux qui ressortent, c'est ceux qui sont souvent les plus extrémistes. Mais le gros de la société qui fonctionne assez différemment, qui d'ailleurs, dans certains cas, ne regarde jamais les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est pas la société tout en entier, et ces gens-là vivent complètement autre chose. Et c'est vrai que votre interlocuteur a raison. Il y a un système médiatique qui est parfois assez déconnecté de la réalité française.
Choses. En tout cas, ce discours médiatique qui pointe du doigt les jeunes, il trouve face à lui un certain nombre de voix qui se sont élevées pour défendre, notamment, je reviens à cette question des fêtes illégales, le droit de la jeunesse à sortir, à faire la fête, à oublier les gestes barrières le temps d'un été, pour se remettre de la période de confinement et des concessions qu'on a demandées à cette génération. Pascal Crépé, qu'en pense l'épidémiologiste de cet argument?
Ben, je pense que ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que on court un marathon contre cette épidémie. C'est-à-dire que ça a commencé en février et mars, et on n'en voit pas encore le bout. Donc c'est compliqué de maintenir un certain nombre de mesures de contrôle de l'épidémie qui sont contraignantes pour les populations et de les garder sur le long terme. Donc moi, je comprends tout à fait qu'il y ait au bout d'un moment un relâchement, et je comprends aussi que ce relâchement soit peut-être plus important chez, alors je vais dire les jeunes, même si le terme se discute, tout simplement parce que les tranches d'âge 18-30 ans sont celles qui ont en général, dans nos sociétés, le plus de contacts, particulièrement au sein de leur propre tranche d'âge. Et donc, lorsqu'on les confine, ou lorsqu'on leur demande de mettre de la distance physique, en fait, pas sociale, mais physique entre elles, bien c'est cette tranche d'âge-là qui doivent faire le plus de sacrifices au final, puisqu'elle renonce à beaucoup plus de contacts que d'autres tranches d'âge. Donc moi, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir un relâchement, et je ne suis pas du tout à blâmer les jeunes, s'il faut les appeler comme ça, mais plutôt à essayer de réfléchir à... Alors déjà, peut-être pas utiliser ce terme de jeunes, même s'il y a une réalité épidémiologique, hein, chez les moins de 30 ans... On décompte seulement une vingtaine de décès parmi les 30 000, les plus de 30 000 décès qu'on a aujourd'hui. Mais néanmoins, je pense qu'on pourrait peut-être plus s'attarder sur des comportements à risque ou des situations à risque qui peut-être sont plus fréquentes chez les populations jeunes, mais pas que. Et ainsi sortir un peu de ce débat jeune et moins jeune.
Reprise épidémique, faut-il blâmer la jeunesse? C'est en tout cas en ces termes un peu provocateurs qu'on a décidé de poser la question ce soir, et on en discute jusqu'à 19h. This is a call to arms to live and love and sleep together. We could flood the streets with love or light. Whatever.
France Culture, le temps du débat d'été, Camille Diao. La jeunesse commence à changer et vous, commencez-vous à changer? C'est ainsi qu'on pourrait traduire les paroles du refrain de cette chanson qui appelle également entre autres à enfermer les parents. C'était le groupe new-yorkais MGMT sur France Culture avec The Youth, la jeunesse qui est justement l'objet de notre débat du jour. Quatre invités avec nous jusqu'à 19h, Serge Guérin et Henri Bergeron, sociologues, Nathanaël Travier, signataire d'une tribune pour défendre cette jeunesse dans Le Parisien, et Pascal Crépé, épidémiologiste. Alors Pascal Crépé, pardon, je continue avec vous. On a beaucoup entendu dire que les jeunes porteurs du coronavirus étaient pour la plupart asymptomatiques. Est-ce que c'est une réalité?
Alors il faut faire attention avec ce « pour la plupart asymptomatique parce que les moins de 30 ans peuvent développer des symptômes et développent des symptômes. Alors peut-être que ce sont de faibles symptômes, mais ils développent des symptômes et on est plus voilà autour des 50% d'asymptomatiques qu'autour des 80 ou 95% d'asymptomatiques. Mais ce chiffre va certainement encore évoluer parce que c'est très compliqué en fait de détecter les asymptomatiques parce que justement ils n'ont pas de symptômes. Donc pour les dépister, ben il faut un peu tomber dessus. Donc on les détecte via dans les clusters familiaux parce que là quand il y a des cas dans une famille, eh bien on va dépister toute la famille et donc on va voir qu'il y a effectivement des personnes qui sont asymptomatiques, mais ce sont des événements donc qui comportent relativement peu de personnes et donc les estimations sont toujours un peu fragiles. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins d'hospitalisations et beaucoup moins de décès. Je vous disais tout à l'heure, 20 décès jusqu'à présent chez les moins de 30 ans. Donc les personnes jeunes sont effectivement beaucoup moins à risque de développer des formes sévères.
Alors depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a été assez largement critiqué pour le manque de clarté de ses messages, de ses consignes. On se souvient du cafouillage autour du masque, d'abord jugé inutile, puis rendu obligatoire. Mais plus récemment, c'est une autre question, celle des événements accueillant plus de 5000 personnes, qui a fait l'objet d'annonces contradictoires. Alors le 4 août, le ministère de la Culture annonce que ces événements seront autorisés à partir du 1er septembre. Le 11 août, Jean Castex, Premier ministre, annonce que finalement, ils vont rester interdits au moins jusqu'au 31 octobre. Et le 17 août, ce mardi, il y a deux jours, voici ce qu'en disait Roselyne Bachelot sur BFM TV.
J'invite les organisateurs de plus de 5000 personnes de spectacles assis qui accepteront les contraintes que nous imposons. Je leur demande de nous demander cette dérogation.
Mais vous nous dites qu'il n'y a pas de passe-droit quand on voit que seules deux dérogations ont été données et qu'elles ont été données à Philippe de Villiers, les deux.
On se dit, données au Puy du Fou, ça, effectivement. Ouais. Non, mais elles n'ont pas été données, j'allais dire, en passe-droit, une faveur. Ouais. Il l'a demandé, il l'a obtenu.
Il ceux l'a qui demandé la demanderont, et il est le seul à l'avoir obtenu.
Mais ceux qui la demanderont l'obtiendront. Je le répète, je le dis aux personnes qui souhaitent, des organisateurs de spectacles de plus de 5000 personnes qui observeront les mêmes contraintes, vous le demandez, vous l'obtiendrez.
Bref, vous conviendrez que ce n'est pas toujours très clair. On s'attend à la rentrée, au retour des événements de plus de 5000 personnes, mais en même temps, il faut se préparer à un potentiel reconfinement local. Serge Guérin, est-ce que ce manque de clarté peut être tenu pour responsable des comportements dits irresponsables d'une partie des jeunes générations qui ont du mal à comprendre ce qu'il faut faire?
C'est ça. Je crois que ça, c'est pas les jeunes générations, c'est tout le monde. Tout le monde a du mal à comprendre parce que les discours sont un peu, ce sont contradictoires. Si on fait l'analogie avec toutes les campagnes anti-tabac depuis 1974, ça fait presque un demi-siècle. Ça va toujours dans le même sens. Globalement, il n'y a pas eu de différence. C'est dangereux, c'est de plus en plus dangereux, ainsi de suite. Là, on est quand même dans des choses, en effet, c'est sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, des contradictions extrêmement fortes. Du coup, c'est vrai qu'il est assez difficile de comprendre. Et du coup, c'est la notion de dissonance cognitive. C'est finalement, ça vous laisse encore plus envie de comprendre ce que vous avez envie de comprendre, ce qui vous arrange. Et du coup, on va dire, ouais, mais enfin, ils nous ont dit ça, mais avant, ils disaient ça. Donc, ça prouve bien que. Et du coup, je crois pas trop au masque. C'est pas ça qui va servir à quelque chose. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc, et puis moi, je fais bien. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça ouvre, ça favorise un comportement qui existe déjà et qui est à la fois individuel et très personnel d'une certaine manière. C'est, j'essaie de faire mon miel entre ce qu'on me dit et ce qui m'arrange d'entendre. Et parfois, et du coup, ça aide à ce qu'il y ait une mauvaise compréhension et qu'il y ait des comportements extrêmement différents. Et de ce point de vue-là, les erreurs, on pourrait dire, de communication, ou la difficulté aussi, parce qu'on savait pas les mêmes choses au même moment et autres. Bon, les choix qui ont été faits, ne sont pas des choix qui ont aidé à la clarté, à la lisibilité. Et du coup, ça ouvre encore plus la possibilité de dissonance. Je fais autrement parce que finalement, vous voyez bien qu'ils sont pas d'accord entre eux. Donc, bah moi, je prends ceux. Avec qui ça m'arrange d'être, quoi, en quelque sorte. Et ça, bon, les jeunes ou une partie des jeunes ont joué là-dessus, mais d'autres catégories aussi. Et enfin, et vous n'avez pas besoin de, enfin, vous, quand vous trimballez dans les rues, quand vous regardez, vous pouvez aussi avoir des gens de tous les âges qui ont des comportements assez différents, ou même la notion de porter le masque. Il y a des gens qui le portent super bien, puis il y a d'autres, on voit le nez par-dessus. Il y en a d'autres qui le portent sur le cou. J'ai vu des gens fumer la chicha sans le masque, puis ensuite se passer la chicha et remettre le masque. Ah, vous dites c'est pas très très logique, quoi, très très cohérent. Donc il y a beaucoup aussi parce que on sait pas nécessairement très bien comment faire aussi. Et donc c'est très récent. Cet apprentissage, il est quand même hyper récent. On est aussi dans des sociétés démocratiques, dans des sociétés latines. On n'est pas en Chine. On n'est pas dans un système dictatorial. Et donc du coup, ce qui est normal s'appelle les usages. On a une règle, mais la règle, bah, tant qu'on la considère pas comme ultra légitime, au moment du confinement, il y a eu vraiment la trouille. Qu'est-ce qui a été le plus efficace? Ça n'a pas été les messages d'une certaine manière, ça a été la peur. D'un seul coup, on s'est dit, oh là là, on risque vraiment sa peau. Et du coup, les gens se sont dit, oh là là, faut pas sortir, ainsi de suite. Mais parce qu'ils l'ont intégré d'une certaine manière. Ah, c'est quand même ça qui a joué. Pourquoi dans des sociétés plus policées, plus homogènes, ça a mieux tourné aussi? Parce que les gens peuvent avoir aussi moins l'habitude des accolades, moins l'habitude d'une certaine confraternité, quoi. Donc tout ça, ça joue. Donc c'est aussi un poids culturel, c'est des habitudes, c'est un plaisir de se faire la bise, c'est des choses comme ça. Et tout ça, d'un seul coup, mais quasiment du jour au lendemain, on change d'habitude. C'est pas évident quand même. Parfois, ça met des... Regardez, je reviens sur la cigarette, c'est presque un demi-siècle pour changer réellement les comportements. Et là, on voudrait qu'en quelques semaines, les comportements changent pour tout le monde.
C'est compliqué, effectivement.
Ben oui, on est dans une société complexe et démocratique, et il faut aussi le prendre en compte.
Nathanaël Travier, sur la communication du gouvernement, est-ce que les autorités de santé et politiques ont su parler à la jeunesse, ou est-ce qu'elles sont tombées à côté?
Je sais pas sur ça. Peut-être juste, moi je pense qu'il y a aussi la question d'assumer la politique qui a été choisie et la légitimité aussi qu'ont eu les jeunes à faire ce qu'ils ont fait. À la fin de quand on a déconfiné au début de l'été, le gouvernement a décidé, à mon avis à juste titre, il fallait relancer l'économie, donc il fallait aller manger au restaurant. On a réouvert les bars, on a encouragé les gens à partir en vacances. Les jeunes gens, moi je parle plutôt des moins de 30 ans, les jeunes gens l'ont fait. Ils l'ont fait sans doute plus massivement que le reste de la population parce que, comme on le soulignait, ils sont exposés au virus indéniablement, mais ils ont des symptômes et les gravités sont plus faibles. Et donc du coup, ces jeunes-là se sont engouffrés effectivement dans ce que le gouvernement avait permis, et du coup sont partis en vacances, ont relancé l'économie, ont aussi alimenté les restaurants et les bars. Et je pense que c'est aussi une bonne chose, c'est ce qui était voulu dans une politique, de dire peut-être quelle va être la rentrée. Si la rentrée est terrible et que c'est une crise, et ben cet été il faut faire en sorte que les choses repartent et qu'on préserve un peu le tourisme. Donc je pense qu'il y a aussi une légitimité, peut-être qu'il y a plus de cas chez les jeunes parce qu'il y avait moins cette peur, mais les jeunes ont fait ce que le gouvernement a autorisé et ce que le gouvernement a encouragé, et à mon sens à juste titre.
Alors, comment s'adresser à la jeunesse pour convaincre les jeunes générations de ne pas laisser tomber les gestes barrières? Eh bien, l'Agence régionale de santé du Grand Est a sa petite idée.
Hey!
Hey!
C'est la première fois que tu viens ici, toi, non?
Non, non! J'étais là l'année dernière!
Ah!
Mais j'avais les cheveux plus courts!
Ah, mais c'est pour ça aussi!
Ouais, ça doit être pour ça!
Et sinon?
Bah sinon j'ai un an de plus, quoi!
Non, mais c'est pas ce que je voulais dire! Ça te dit qu'on aille se baigner?
Ouais, ok!
Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Alors le clip est sorti début juillet, je vous décris la scène. Deux adolescents qui se draguent sur la plage et qui sont obligés de crier parce qu'ils respectent la distanciation physique. Henri Bergeron, vous êtes sociologue spécialiste des politiques de santé. Est-ce que c'est une bonne idée d'adapter ainsi le discours de prévention en fonction des différentes catégories de population, d'âge notamment?
Vous m'entendez bien là cette
oui,
fois?
Oui, on vous entend mieux que tout à l'heure, effectivement.
Quand vous, enfin, d'une manière générale, ça a été souligné. Une prévention descendante avec des messages très généraux où l'État s'adresse à une somme d'individus qui ne sont pas caractérisés, qui ne sont pas spécifiés, c'est quelque chose peut-être nécessaire mais largement insuffisant. Et ceux qui travaillent à l'évaluation des stratégies de prévention savent bien que en complément doivent être développer des stratégies qui ciblent plus précisément des catégories de population. Et là encore, moi je doute que l'âge ne soit qu'un, enfin, soit une variable parfaitement opératoire, mais c'est pour ça que je reviens sur ce qui a été dit. Il faut plutôt cibler des situations à risque ou des populations à risque, et l'âge peut être un élément caractérisant ces populations à risque, mais il y a plein d'autres éléments qui les caractérisent par ailleurs. Donc une campagne générale doit généralement être accompagnée par des campagnes qui ciblent plus spécifiquement des populations et qui jouent sur, alors ça a été une révolution dans les stratégies préventives à partir de 77 et sous l'impulsion de Simone Veil et la modernisation de ce qu'on appelait à l'époque le Centre français d'éducation pour la santé, d'essayer aussi de parler à des populations à risque en fonction de leurs idiomes, de leur langue, de la façon dont elles se comportaient. Le deuxième point qui peut être important à souligner, qui a été évoqué, je pense que c'est un point très fort, directement de la sociologie et notamment de la sociologie de l'organisation, on sait que les relations sont un déterminant important des comportements. C'est toujours intéressant aussi d'avoir des stratégies qu'on dit stratégie communautaire dans le langage de la santé publique, et qui sont des stratégies qui s'appuient finalement sur les relations que nous, dans des quartiers, dans des communautés, dans des lieux, les personnes, si on arrive à faire dire des messages qui sont à faveur des messages crédibles par des personnes qui sont considérées comme légitimes et crédibles, on a plus de chances d'améliorer le résultat de la stratégie de communication, en sachant que la communication n'est de toute façon qu'un des éléments de la transformation des comportements, ça a été dit, hein. Les stratégies rapides ne peuvent pas modifier les comportements en l'espace de quelques mois. On nous a fait croire avec le nudge et le comportementalisme qu'on allait pouvoir comme ça transformer d'un coup de baguette magique un grand nombre de comportements. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais effectivement, cibler des populations, des situations à risque ou des pratiques à risque permet d'adapter un discours de communication, permet d'adapter une stratégie de prévention aux caractéristiques, aux dynamiques de la cible. Et ça, c'est très important.
Alors, au-delà du discours, vous l'avez dit, il y a le discours et la communication, mais ce n'est qu'une composante. Que peut-on faire concrètement pour tenter de freiner cette reprise de l'épidémie qui menace, et en particulier chez les moins de 30 ans? Alors, on a lu plein de choses ces derniers jours dans la presse. Certains professeurs proposent de confiner les personnes les plus âgées, les plus fragiles. D'autres proposent de tester gratuitement et massivement tous les moins de 40 ans. D'autres encore, pour ne pas citer le professeur Combe de la Pitié-Salpêtrière, proposent de laisser les jeunes se contaminer entre eux. Pascal Crépé, enseignant-chercheur en épidémiologie, que pensez-vous de ces différentes stratégies? Y en a-t-il une qui vous paraît souhaitable, utile?
Bon, alors moi je trouve que c'est bien d'être créatif, hein, en fait on sait déjà comment faire, puisque on l'a fait. On a contrôlé cette épidémie à la suite du confinement, donc du déconfinement, pendant 2 mois, entre début mai et début juillet. Le nombre de reproductions effectives, donc le nombre moyen de personnes infectées par une personne déjà contaminée, était en dessous de 1. Et donc ça veut dire que l'épidémie est contrôlée et elle reste en phase décroissante. Et donc pendant 2 mois, ça fonctionnait. C'est-à-dire que le port du masque, l'interdiction des rassemblements tout le dispositif de détection de cas de détection des chaînes de contamination permettait d'avoir le contrôle sur cette épidémie. Clairement, ce dispositif et toutes ces mesures ont perdu en efficacité à l'arrivée de l'été pour des raisons certainement qu'on a déjà évoquées de relâchement ou de surcharge des laboratoires, etc. Et donc l'épidémie n'est aujourd'hui moins sous contrôle. Elle est quand même contrôlée parce qu'on n'est pas dans la situation de mars, mais elle est moins sous contrôle. Donc on sait comment faire. Alors toutes les stratégies que vous avez évoquées, elles sont on peut en discuter, on peut les prendre une par une, mais elles ont quand même certains défauts. Et le premier défaut, c'est que elles se heurtent à un principe de réalité qui fait que on n'a pas forcément les moyens aujourd'hui de les mettre en place. Donc le mieux, c'est encore d'essayer de faire ce qui fonctionne, à savoir d'essayer de reprendre un peu les pratiques que l'on a eues entre mai et juillet.
Nathanaël Travier, je crois que l'idée de confiner certaines catégories de population qui seraient plus fragiles, plus vulnérables au virus, c'est une idée qui a été vilipendée par beaucoup, mais vous, cette idée vous paraît intéressante ?
Pas forcément celle-là, précisément. Moi, je pense que sur la question du confinement, moi, j'ai une vision assez très, très libre. Je pense que les gens doivent aussi prendre leurs responsabilités et qu'il ne convient pas d'infantiliser les gens. Moi, simplement, ce que je pense, à titre personnel, c'est que la question d'une politique de restriction qui ne soit pas différenciée va devoir se poser. La maladie ne touche pas tout le monde pareil, donc un jour il faudra la mettre sur la table. Et qu'il y a un discours qui n'est pas forcément la rupture de la solidarité. La solidarité, c'est pas forcément tout le monde fait la même chose en même temps, mais c'est aussi peut-être les moins fragiles peuvent aller au front, soutenir l'économie, faire avancer la société, pendant qu'on peut préserver les plus fragiles. Donc les moins fragiles peuvent aider les plus fragiles de cette façon-là, et du coup la différenciation des restrictions est une question qu'il faudra se poser un jour.
Et Emmanuel Macron, on vient de l'apprendre, a déclaré à Paris Match, dans le Paris Match qui paraîtra jeudi, on ne peut pas mettre le pays à l'arrêt une nouvelle fois. Il pousse à nouveau cette idée de potentiel reconfinement ciblé en fonction de l'évolution de l'épidémie. Serge Guérin, je vous laisse le mot de la fin sur les stratégies à adopter. Comment peut-on mettre en place une politique de santé publique qui organise la solidarité sans renvoyer les générations dos à dos?
Je crois que ce que disait Nathanaël Travier est très joli et très fort, c'est-à-dire que les moins fragiles, on est tous plus ou moins fragiles. Et puis selon les moments, on est plus ou moins fragiles. Et qu'en effet, ceux qui, sur un domaine, sont moins fragiles que les autres, sont plus solidaires avec les plus fragiles. Et je trouve que c'est même ce qui définit une société et ce qui devrait définir notre société. Le deuxième élément, c'est qu'il faut rappeler, quelles que soient les générations, la France subit une défiance incroyable, énorme, de toutes les générations envers les institutions. D'où le problème, quand l'institution prend la parole pour dire il faut faire telle ou telle chose ou pour faire la morale, ça ne marche pas parce que l'institution est généralement, pas les institutions de santé, mais globalement l'institution, le politique est malheureusement extrêmement subit une forte défiance. Du coup, leur discours ne fonctionne pas. Du coup, après, c'est sans doute des politiques de communication, d'influence, d'action au plus près de là où vivent les gens. Par exemple, dans les entreprises. Dans les entreprises, c'est pas une question de génération.
Je vous laisse conclure, Serge Guérin. Malheureusement, l'émission touche à sa fin.
Oublions la question des générations et pensons en termes de solidarité, en termes d'interdépendance et en termes d'alliance entre toutes les générations.
Et ce sera le mot de la fin de cette émission consacrée à la reprise épidémique. Faut-il blâmer les jeunes ? La réponse a priori est non. Merci à nos invités du soir, Nathanaël Travier, Pascal Crépé, Henri Bergeron, Serge Guérin, d'avoir participé à cette discussion. Et comme chaque soir, je me dois de remercier également l'équipe du Temps du Débat, Sophie Alavi, Alexandra Delbo, Audrey Dugas, Nicolas Berling, Mathilde Tonfourcade, Doria Zénine à la réalisation, Marie-Claire Oumabadi à la technique. Demain matin, dans les matins d'été, Chloé Cambrelin recevra Ina Shevchenko, militante du mouvement Femen, désormais journaliste, pour évoquer la révolte en Biélorussie. Et ce n'est pas Chloé Cambrelin, c'est Guillaume Erner qui fait son grand retour demain matin. Quant à nous, on se retrouve à 18h15 pour nous demander si les Verts sont en capacité de devenir la nouvelle gauche française. Je vous dis donc à demain et je vous souhaite une très belle soirée sur France Culture.